RCF.
La vie, quelle est la situation, quel est l'avenir, quelles espérances pour les chrétiens d'Orient? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser dans cette émission avec Monseigneur Pascal Golnisch. Il est le directeur général de l'œuvre d'Orient. Je voulais vous demander, pour commencer, Monseigneur, de nous redire ce qu'est l'œuvre d'Orient.
L'œuvre d'Orient est une œuvre qui a été créée en 1856. Donc sous le Second Empire, au départ pour aider les écoles d'Orient. Nous avons été fondés par des laïcs, ce qui est assez original au XIXe siècle, et qui c'était des profs, et ils voulaient aider ce travail si important encore aujourd'hui d'éducation. Donc on s'est appelé l'œuvre des écoles d'Orient. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'à côté des écoles, il y avait aussi des petits hôpitaux, des dispensaires, souvent animés par les mêmes communautés religieuses. Et donc il fallait aussi les aider. Donc on s'est appelé l'œuvre d'Orient. Nous travaillons évidemment au Moyen-Orient, mais dans tous les pays où il y a une église catholique orientale historique. Ça veut dire aussi en Éthiopie, en Érythrée, mais encore en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie, mais encore en Turquie, en Iran, et même dans le sud-ouest de l'Inde où il y a des églises orientales.
Donc ça fait, je crois, plus d'une vingtaine de pays dans lesquels l'œuvre d'Orient est présente aujourd'hui.
Absolument. Alors, notre manière d'être présente, c'est véritablement une sorte de compagnon de route. Nous n'avons pas à dire aux chrétiens d'Orient ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Nous n'avons aucune autorité pour cela. C'est eux qui savent quelle est leur mission, comment ils la comprennent. Ils nous connaissent, donc depuis 1856, on a eu le temps de faire connaissance. Et ils nous disent, ben voilà, je voudrais agrandir mon école, je voudrais développer mon dispensaire, ou j'ai la toiture de l'église à réparer, ou j'ai des séminaristes à former, ou j'ai besoin pour tel ou tel événement pastoral d'un soutien. Et à ce moment-là, nous apportons l'aide que les donateurs ont bien voulu nous confier. Mais il n'y a pas d'action directe de l'œuvre d'Orient. Nous sommes toujours aux côtés des chrétiens d'Orient.
Ça veut dire que vous soutenez, on pourrait dire, des projets qui sont conduits localement par des chrétiens.
Absolument. Nous avons 1200 projets, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup et qui veut dire que parfois, certains projets sont assez modestes. Et si on envoie 3000 euros à une petite paroisse oubliée en Haute-Égypte, 3000 euros, bon, c'est pas une somme colossale, mais pour eux, c'est une somme importante. Et puis, on est fidèles. On est des petits besogneux à l'œuvre d'Orient, mais on est fidèles. Donc, on va leur envoyer 3000 euros chaque année. Ils peuvent compter dessus et donc avoir des projets. Et 3000 euros, pour eux, ça représente une somme importante. Et donc, ils vont continuer à développer leur école, leur dispensaire, peu à peu, avec ces 3000 euros. Mais cela suppose, de notre part, vraiment un travail d'écoute. Notre premier acte, c'est d'écouter. Et puis, nous situons aussi notre action véritablement de la communion des églises. Tout le monde sait qu'on est proche de l'Église de France, je suis prêtre, et donc on apporte le lien avec ces églises qui sont en Orient, de connaissance mutuelle, écoute, communion spirituelle, et puis alors soutien selon leurs besoins.
Est-ce qu'il faut dire aussi que les chrétiens, peut-être pour comprendre ou redire la situation dans laquelle se trouvent ces chrétiens d'Orient, c'est que dans la plupart des pays où ils vivent, ils sont aujourd'hui minoritaires, c'est ça leur réalité?
Oui, alors ce qui existe aussi dans beaucoup de régions, on ne va pas parler de l'Europe, mais enfin, oui, mais ils sont minoritaires, parfois très minoritaires. Donc ils sont encore assez significatifs au Liban, où ils sont soutenus aussi par un rôle institutionnel, comme vous le savez, au Liban. Le président de la République libanaise est nécessairement un chrétien maronite. Ils sont une minorité significative en Égypte. Ils font à peu près 10% de la population, donc 10 millions d'habitants en Égypte. Et sans cela, ils vont être 2, 3, 4, 5% et parfois encore moins dans des pays comme l'Iran ou la Turquie. Mais en Europe de l'Est, ils peuvent être en Ukraine, Roumanie, Bulgarie, malgré tout, des chiffres significatifs. Je parle là des catholiques orientaux. Donc ce sont des toutes petites minorités et c'est jamais très agréable d'être une toute petite minorité. On est vite fragilisé, on est vite discriminé. Les chrétiens d'Orient souffrent de discrimination. Ils n'ont pas accès à la pleine citoyenneté comme les autres. Donc c'est des discriminations professionnelles, administratives, politiques, de voisinage, même de familiales. Je veux dire, par exemple, on sait bien qu'une musulmane ne peut pas épouser un chrétien, par exemple. C'est interdit. Ou difficulté pour une personne musulmane de se convertir au christianisme, alors que l'inverse est possible. Donc ces minorités, évidemment, souffrent de ces discriminations. Parfois, c'est des violences ponctuelles, un attentat. Et parfois, c'est véritablement quelque chose de systématique, une violence lourde, comme il y a eu avec Daesh, par exemple. Mais le cas le plus fréquent, c'est quand même la discrimination. Mais il n'y a pas que de la discrimination. Ces chrétiens, dans leurs pays respectifs, ils agissent selon l'esprit de la mission qu'ils se donnent. Et donc surtout à travers les écoles et les hôpitaux, qui sont réputés de qualité et également au service de l'ensemble de la population. Vous avez des écoles catholiques dans lesquelles la moitié des élèves sont musulmans, par exemple. Parce que c'est leur choix. Ils ont décidé d'accueillir des élèves. Ce n'est pas nous qui leur disons oui ou non. C'est eux qui ont décidé d'accueillir aussi des élèves musulmans. Et tout le monde comprend que si pendant 12 ans, des petits musulmans et des petits chrétiens ont été éduqués ensemble, scolarisés ensemble, c'est évidemment très important pour l'avenir du pays. Et puis ces chrétiens, non seulement travaillent dans l'éducation et la santé au service de tous, mais également, ce sont eux qui sont finalement les mieux formés pour réfléchir à ce que c'est que la pleine citoyenneté pour tous. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens comme minorité. Hein, dans un pays sunnite, il peut y avoir une minorité chiite, dans un pays chiite, il peut y avoir une minorité sunnite, et puis de différents groupes, etc. Il y a les yézidis en Irak, qui ont été très durement aussi touchés par Daesh. Donc il y a plusieurs minorités. Les chrétiens sont ceux qui peuvent le mieux faire entendre la voix des minorités. Or, c'est souvent parce qu'un pays est capable de respecter ses minorités, qu'il progresse dans les libertés pour tous, dans les droits de l'homme pour tous et dans la citoyenneté pour tous. Donc vous voyez, il y a un enjeu important qui est bien plus crucial que leur simple nombre, c'est le rôle symbolique qu'ils peuvent jouer dans les pays où ils sont.
Sur RCF, la suite de notre rencontre avec Mgr Pascal Goldnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Vous nous parliez de leur relation avec les musulmans, et en prenant l'exemple concret de l'accueil, par exemple, dans des écoles. Si la situation, suivant les différents pays, est certainement différente, qu'est-ce que vous voulez nous dire encore de manière générale de leur relation dans ces différents pays avec les musulmans? Parce qu'on pourrait dire, voilà, il n'y a que de la discrimination, mais pas seulement.
Ah, pas seulement du tout. Le monde musulman est un monde extrêmement divers, extrêmement varié. Et nous ferions une grosse faute, de les ramener à je ne sais quelle homogénéité. Donc il y a des extrémistes violents, c'est généralement ceux dont on parle le plus et dont nous connaissons les cruautés, mais dont souvent les musulmans sont les principales victimes. Et par ailleurs, il y a des musulmans qui sont de bons pères de famille, qui essayent d'élever leurs enfants, et il y a des musulmans qui veulent que leur pays avance. Il n'y a aucune raison que les pays du Moyen-Orient soient sur le bord de la route du développement international, du développement économique, de l'avancée des droits, des libertés, de ce qu'on peut appeler la démocratie, dont nous n'avons pas à être honteux, etc. Et donc, ce sont des combats contre la corruption, contre des réalités qui freinent ces pays, et dans ces combats, des musulmans agissent, et des chrétiens agissent. On sait bien que dans des événements récents qu'il y a eu en Égypte, par exemple, les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans agissaient ensemble. Et donc, on aurait tort de penser que tout se ramène à une tension entre chrétiens et musulmans. Ce n'est pas du tout la réalité. Il y a des gens de bonne volonté, et parfois, il y a des gens violents et extrémistes. Et donc, les chrétiens ont vraiment un rôle à jouer dans ces paysages, pour affirmer leurs valeurs, pour affirmer leur humanisme, leur respect de la personne, le respect de la femme, par exemple, aussi, le souci des plus faibles. Tenez, par exemple, il y a une question qui a beaucoup traversé ces sociétés du Moyen-Orient, c'est les personnes ayant un handicap mental. comme parfois d'ailleurs en Europe il y a quelques dizaines d'années, c'était perçu comme une honte par une famille d'avoir un enfant ayant un handicap mental. Il faut se cacher, c'est encore une fois une honte. Eh bien, les chrétiens, parce qu'ils ont créé des communautés, un peu du genre des communautés de l'Arche, ont mis en lumière la valeur de la personne ayant un handicap mental et ont transformé le regard sur la personne ayant un handicap mental. Donc ça, c'est par exemple vraiment une réalité dont les chrétiens peuvent être fiers à juste titre. Il y a le souci des plus pauvres, il y a des gens qui ont besoin de nourriture, qui ne mangent pas à leur faim. Et il y a différentes initiatives dans l'Église catholique avec des jeunes, avec des scouts aussi. Figurez-vous qu'au Moyen-Orient, les scouts catholiques, c'est des mouvements qui marchent très très bien. Ils ont un uniforme impeccable, plein de... voilà. Et donc, ils servent parfois des repas aux gens les plus pauvres, ceux qui sont en difficulté. Il y a des réalités dont on parle trop peu. Tenez, sur la bande de Gaza, dont tout le monde sait la situation très dure de cette bande de Gaza, avec le Hamas qui la dirige, eh bien, il y a 3 écoles catholiques, tenues par des religieuses catholiques. 99% des élèves sont musulmans, parce que c'est la structure de la bande de Gaza. Il n'y a presque plus de chrétiens dans la bande de Gaza. Mais ces religieuses arrivent à donner à cette jeunesse de Gaza une autre perspective que la violence, que la guerre, que la haine, pour essayer de retrouver des valeurs qui permettront à cette population d'aller de l'avant. Voici, c'est un exemple. Mais on pourrait regarder aussi comment, après les méfaits de Daesh, les gens qui avaient souffert de Daesh ont pu ne pas céder à la haine. J'étais toujours très impressionné par ces gens qui ont vu la mort de près, hein, qui ont vu leur maison détruite parfois. C'était pas drôle. Hein. Mais disons, je ne veux pas haïr. Je ne veux pas haïr parce qu'on disait ensemble notre Père, me disait priez pour que je sois capable de pardonner. Sans ça, je ne suis pas digne d'être chrétien. Sans ça, je ne suis pas, je suis pas différent de ceux qui nous ont fait du mal. Et pas de paroles de haine, pas de paroles de violence. Ça, c'est très important. Et puis, il y a des personnalités, comme par exemple le patriarche Sacco, qui est cardinal, qui habite Bagdad, qui est le patriarche des Chaldéens, qui se bat et se débat pour que son pays avance vers la pleine citoyenneté pour tous. Et là aussi, il parle pour l'ensemble de la population, pas simplement pour les chrétiens. Et c'est un peu grâce à lui que le voyage du pape François était possible à Bagdad. Ça a eu un impact considérable. Il n'était pas très attendu, hein. Ça a créé à peu près autant d'enthousiasme que si un ayatollah était venu à Paris ou à Brest. Mais le pape a su trouver les mots qui ont touché cette population qui a beaucoup souffert. Et il a su les inviter à regarder devant, à regarder l'avenir, et ça a eu un impact considérable. Après ce voyage, les autorités irakiennes ont décidé que le 25 décembre serait un jour férié pour l'ensemble de la population. Mais ça, on n'en a pas dit beaucoup de mots en France là-dessus, vous voyez. Donc il y a des choses, vous savez, le bien ne fait pas de bruit, et il y a des choses qui avancent comme cela, grâce au courage d'une personnalité, parfois, d'une religieuse, d'un laïc, et... Il permet, vous voyez, quand je pense à l'expression sel de la terre, ils sont vraiment dans cette situation. Le sel, il n'est pas majoritaire, nécessairement. D'ailleurs, il y aurait trop de sel, ce serait un peu indigeste. Hein. Et voilà, le sel, il n'a pas forcément vocation à se calculer en termes de pourcentage. Oh.
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, est sur RCF cette semaine. En vous entendant, on voit en fait aussi que ces chrétiens d'Orient, pour reprendre l'expression, votre expression, sont le sel de la terre par la charité. D'une certaine manière, vous nous avez parlé notamment éducation, santé, c'est-à-dire c'est par des actions concrètes qu'ils essayent de vivre, de se faire reconnaître dans ce pays, de dire l'évangile aussi d'une certaine manière.
Oui, on sait bien que dans ces étés, c'est pas très facile pour des chrétiens d'expliciter le message de l'évangile. Et donc, de fait, ces attitudes de service, de respect, vous savez, dans toutes ces populations du Moyen-Orient ou dans bien d'autres régions du monde, c'est incroyable à quel point les gens sont méprisés. Et que nous, chrétiens, il faut qu'on ait ce sens du service, du respect. Il faut respecter les personnes. Et les gens souffrent, vous voyez, même en France, parfois je vois des gens qui souffrent de ne pas être reconnus dans la vie professionnelle, par exemple. Eh bien, dans ces sociétés du Moyen-Orient, trop de gens souffrent de ne pas être reconnus. Et les chrétiens ont vraiment, je crois, sont habités par cette capacité de reconnaître tout le monde. Oui, à Mossoul, après que Daesh ait été vaincu, le patriarche chaldéen dont je viens de parler, le patriarche Sacco, alors c'est une population sunnite quand même qui avait un peu accueilli Daesh au départ, hein, donc on pouvait, qui craignait des représailles contre eux. Hein. Le patriarche chrétien, catholique, Sacco, est arrivé avec 3 semi-remorques de vivres pour la population. Oui, ce sont des gestes prophétiques qui souligne véritablement un respect de chacun. Et on voit bien comment aussi, quand le pape est allé dans un pays comme la Turquie, ou comme en Jordanie, en Terre Sainte, ou en Égypte, ou dans les pays du Golfe, première fois qu'un pape venait dans un pays du Golfe, et il a su, non pas comme certains en feraient le reproche un peu ridicule, que c'est pas qu'il a plus envie d'être chrétien, ou je ne sais pas, non, pas du tout, mais parce qu'il est chrétien, il vit le vrai respect des personnes comme le Christ nous a appris à le faire. Alors c'est une question d'imitation de Jésus-Christ. Voilà. Au-delà d'un livre, c'est une attitude, et c'est cette attitude-là, je pense, que le Christ aurait aujourd'hui.
Quand on est en France, ici, peut-être peu spécialiste de ces régions, on se dit tout de même, si on prend quelques exemples, par exemple le Liban, on pourrait aussi regarder de ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle la Terre Sainte, on peut dire que les situations sont quand même très compliquées, et très compliquées aussi pour les chrétiens qui peuvent devenir de plus en plus minoritaires d'une certaine manière.
Oui, c'est-à-dire que si un pays va mal, le Liban va mal, la Palestine va mal, eh bien, dans un pays qui va mal, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour les chrétiens, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'avenir pour les autres. Parfois, les chrétiens sont ceux qui ont le plus de facilité à partir. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont pourchassés, c'est qu'eux, parfois ils connaissent les langues, ils ont une ouverture, la famille dans d'autres pays, et donc ils ont plus de facilité à partir que les autres. Mais si ces pays allaient mieux, vous savez, les chrétiens ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur. Un Irakien chrétien, c'est un Irakien, il aime son pays. Un Syrien chrétien, c'est un Syrien, il aime son pays. Donc, aucun chrétien ne quitte son pays de gaieté de cœur. Il le quitte parce qu'il ne sent plus de perspective, et surtout s'ils ont des enfants, il dit « pour mes enfants, je veux chercher une vie meilleure ». Mais beaucoup aimeraient quitter parfois ces pays. Les musulmans aussi aimeraient quitter leur pays. Donc je pense que, vous voyez, le sort des chrétiens et l'avenir des chrétiens, il est tout de même lié à l'avenir du pays dans son ensemble. Dans un pays qui va mal, les chrétiens ne vont pas bien, c'est clair. Et donc, il dépend un peu de nous que ces pays aillent mieux. Parce qu'il faudrait quand même s'interroger sur la manière dont la communauté internationale joue un rôle positif ou négatif dans l'évolution de ces pays. Je suis de ceux qui pensent que la deuxième intervention américaine en Irak a quand même beaucoup détruit ce pays et ne l'a pas reconstruit, et donc a permis des réalités comme Daesh. Je pense que les sanctions économiques contre la Syrie sont très négatives pour la population. Je pense que la situation de la Palestine souffre beaucoup du fait que la situation de ces Palestiniens n'est pas sérieusement prise en compte par la communauté internationale, etc. etc. Donc cela dépend un peu de nous, quand même, que ces pays aillent mieux, et s'ils vont mieux, que les chrétiens, à ce moment-là, puissent être à la fois acteurs et bénéficiaires de l'évolution de leur propre pays.
Est-ce que l'œuvre d'Orient intervient aussi en ce sens, Monseigneur ?
Oui, autant que faire se peut. Nous sommes une œuvre d'Église, nous n'avons pas vocation à mener une action politique, nous ne sommes pas des militants politiques, mais, et ce n'est pas toujours facile de faire la frontière, nous devons parler aux responsables politiques. Et nous sommes assez écoutés quand même. Je veux dire, nous avons des contacts avec le conseiller du président de la République, le président lui-même, nous avons des contacts avec le gouvernement, avec la haute administration, pour faire entendre la voix des chrétiens d'Orient. On n'est pas leur porte-parole, mais nous sommes des témoins, donc nous pouvons parler d'eux. Et puis, tout de même, d'apporter un peu une réflexion sur ce que la France pourrait faire. Tenez, je vous donne un exemple. Le président de la République française a décidé la création d'un fonds d'État, qui est donc abrité au Quai d'Orsay, pour soutenir les écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient. Ce fonds d'État est co-géré à parité par des hauts fonctionnaires des affaires étrangères, 4 hauts fonctionnaires et 4 représentants de l'Euro d'Orient. Et ça a amené mes collaborateurs à travailler avec les ambassades de France dans les différents pays du Moyen-Orient, pour voir où étaient les écoles qui avaient le plus besoin d'aide. Je trouve que c'est une collaboration, une coopération intéressante. Nous respectons les responsables de l'État que nous trouvons en face de nous. Et puis nous avons notre particularité. On n'est pas un relais des services de l'État. Nous avons notre regard. Parfois, nous avons des regards différents, par exemple sur la question de la Syrie. Mais je crois que nous nous respectons et nous essayons d'enrichir la réflexion des responsables sur cette région.
On pourrait dire une manière juste de vivre la laïcité à la française ?
Absolument. Je suis très attaché à cette laïcité. Je suis moi-même un fils d'école publique, d'ailleurs. Mais à condition qu'on ne lui fasse pas dire n'importe quoi. Voilà. Et je pense précisément sur la laïcité, dont la France veut un peu le porte-étendard, que nous ne devons pas lui faire dire n'importe quoi parce que ça la rend inaudible et insupportable pour les pays du Moyen-Orient. Alors que peut-être ce serait une piste qui pourrait être intéressante, pas forcément un copier-coller de notre laïcité française, qui est quand même très française, mais une certaine distance entre les pouvoirs publics et les réalités religieuses serait sans doute profitable à l'ensemble de la population. Nous n'avons pas le droit de laisser se détériorer l'image de la laïcité.
Dernier volet de notre rencontre avec Monseigneur Pascal Goldnisch. J'aimerais que vous nous disiez concrètement comment l'œuvre d'Orient choisit les projets qu'elle soutient là-bas dans ces 20-23 pays que vous accompagnez, puisque vous l'avez dit au début de l'émission, vous ne faites pas vous-même, mais vous accompagnez des associations locales. Est-ce qu'il y a des critères ? Comment vous décidez ? Eh bien, c'est tel ou tel projet qu'on va accompagner.
Alors donc, nous sommes à l'écoute. Et encore une fois, on nous connaît. Donc ce sont souvent des communautés religieuses, généralement des communautés chrétiennes, généralement des communautés catholiques, qui nous font part de leurs projets. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir une réponse rationnelle à votre question qui est importante. Parfois, par exemple, il y a des communautés avec lesquelles nous travaillons depuis très longtemps, parfois depuis 1856. Par exemple, des filles de la charité qui sont parties de la rue du Bac et qui se retrouvent au Liban, en Syrie, etc. Nous avons un partenariat long, une confiance, et donc nous pouvons travailler avec eux. Alors, il y a donc l'histoire que nous avons avec ces communautés, la durée. Il y a la confiance que nous avons envers les responsables. Alors, c'est du feeling. Si je vois un responsable religieux qui a 4 Mercedes, j'ai pas très envie de le soutenir financièrement. Quand je vois des religieuses qui vivent dans une pauvreté extrême. Je me dis ça, je peux y aller parce que l'argent qu'on va leur confier ira bien vers les gens qui en ont besoin. Donc la confiance envers les dirigeants. Quand même, nous avons toute une équipe de laïcs, bénévoles, qui vont à la rencontre des communautés et qui regardent ce qui se fait, qui regardent la réalité de l'aide qui est portée. On les appelait des missi dominici, voilà, parce qu'ils vont deux par deux. Et donc, ils vont connaître ces communautés. Et puis, alors, nous avons parfois, dans certains pays, comme en Irak ou au Liban, des directeurs pays, donc des gens qui sont sur place en permanence. Et enfin, nous avons des volontaires, des jeunes adultes, ou moins jeunes d'ailleurs, parfois des seniors, qui acceptent d'aller passer un an ou deux en Orient, dans les communautés religieuses, pour servir, mais aussi pour regarder. Donc on finit par assez vite savoir quelles sont les communautés qui font vraiment du bon travail, qui vraiment sont au service, et dans des populations qui en ont de réels besoins. Après ça, c'est parfois difficile, hein. Mettons que dans une région, j'ai 5 écoles à aider, mais je n'ai les ressources que pour en aider 3. Il faut donc que j'en exclue 2. C'est pas toujours très rationnel comme raisonnement. Ça, je peux pas en aider 5, je peux en aider que 3. Voilà.
Ça fait quand même de nombreuses années, Mgr Pascal Goldlich, que vous accompagnez les chrétiens d'Orient comme directeur général de l'œuvre d'Orient. Qu'est-ce qui est pour vous concrètement signe, source d'espérance pour ces chrétiens d'Orient aujourd'hui, depuis ces années que vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous diriez?
Eh bien, écoutez, moi, je pense que ce qui touche peut-être le plus, parce qu'ils ont des qualités et des défauts, ils sont comme nous, hein, ce ne sont pas tous des saints, mais ce sont tous des croyants. Et c'est des gens qui ont une foi profonde, qui ne se vit pas forcément comme chez nous. Chez nous, souvent, une personne fait sa crise d'adolescence, et puis après ça, dépasse ça, et dans le meilleur des cas, fait un retour à la foi. Là, vous pouvez faire toutes les crises d'adolescence que vous voulez, de toute façon, vous êtes né dans une famille chrétienne, etc. Mais ça veut pas dire que ce n'est pas une foi profonde. Parfois, une foi où ils ont risqué la mort à cause de leur foi. Et je pense que cette foi, il faut que nous la respections, bien sûr, que nous sommes dans une communion de foi avec eux. Et cette foi, ils doivent la porter à l'Église universelle. L'Église universelle, ce n'est pas que l'Église latine. Alors nous, on est des latins, on se croit partout des latins, mais non, l'Église latine, c'est l'une des composantes de l'Église universelle. Et je pense que ces églises orientales nous apportent cette expérience de foi, comme ils nous ont apporté en d'autres temps d'ailleurs la vie monastique qui est née en Orient, comme ils nous ont apporté la plupart des pères de l'Église, comme ils nous ont apporté les 4 grands premiers conciles œcuméniques. Et je crois qu'ils peuvent aussi nous apporter leur tradition liturgique aussi. Oui, mais tout ça, c'est clair, essentiellement dans la foi qui est la leur. Recevons-les comme des gens dont nous partageons la même foi.
Une toute dernière question, pourquoi ça peut être important pour des auditeurs qui nous écoutent de soutenir l'œuvre d'Orient que vous dirigez? Qu'est-ce que vous diriez?
Eh bien, parce que je pense que si nous ne les soutenons pas, eh bien, de fait, ils risquent de disparaître. Je souhaite leur maintien, je crois que leur maintien est possible, mais leur maintien n'est pas acquis. Et ils ont besoin de notre soutien pour se maintenir. Et s'ils ne se maintiennent pas en Orient, alors c'est toutes les minorités qui vont s'effondrer. Les pays vont se retrouver dans des groupes majoritaires exclusifs. Et ce sera, à terme, un conflit au Moyen-Orient dont l'Europe ne sortira pas indemne. Donc pensons qu'en les aidant, d'une certaine manière, c'est aussi un peu nous que nous aidons, parce que c'est l'équilibre de ce village méditerranéen qui est en cause.
Monsieur Pascal Goldlich, merci beaucoup.